Salut à tous et bienvenue dans la chronique des composants. Nous sommes le jeudi 18 juin 2015 et nous enregistrons donc cette nouvelle session de la chronique des composants avec toi, Guillaume. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment vas-tu ?
Fort bien, et toi-même ?
Eh, écoute, très très bien. On a des beaux sujets à relayer. Allez, on va donner un petit peu les coulisses de la chronique des composants. On avait, avec Guillaume, testé tout simplement de réutiliser l'enregistrement qu'on avait fait ensemble. Allez, je vous réexplique vraiment tout. Avant chaque Tech Café, en général, Guillaume est plutôt à l'heure et on a l'occasion de dérouler les sujets avant de les enregistrer en vrai dans la chronique des composants. Et là, en fait, on avait tellement bien détaillé les sujets qu'on s'était dit, tiens, ça vaut le coup, peut-être que finalement, bon, on vient de faire l'épisode. Hier, j'ai voulu faire le montage, et puis je me suis rendu compte que c'était complètement inexploitable, parce qu'autant dans notre discussion, ça passait très bien, autant pour vous, ça aurait été très difficilement audible, et puis il manquait quand même des pans entiers d'explications. Donc on réenregistre spécialement pour vous cette chronique des composants, parce qu'il y a vraiment des beaux sujets. Le premier beau sujet, Guillaume, c'est que je me rappelle que tu m'avais, donc du coup, durant ce simili-enregistrement, on va dire, en quelque sorte, tu avais plutôt bien expliqué un concept qui m'était totalement obscur. C'est celui, grosso modo, des microprocesseurs reprogrammables. Je l'explique sans doute très très mal et tu vas le faire bien mieux que moi, mais tu me parlais de cela à l'occasion d'un rachat par Intel. Alors dis-nous tout, explique-moi un petit peu, explique-nous en quoi consistent ces microprocesseurs reprogrammables, entre guillemets.
Oui, bah alors pourquoi on en parle ? On en parle surtout parce que Intel... s'est fait plaisir, il a racheté la société Altera pour presque 17 milliards de dollars.
C'est un joli chèque.
Alors, c'est pas mal, c'est une bonne acquisition, et donc on peut se demander, mais ils font quoi Altera pour valoir ce prix ? Eh bien Altera, ils font des FPGA. Alors FPGA, ça veut dire, attention, Field Programmable Gate Array, ce qui signifie qu'en fait, ils fabriquent des puces qui peuvent se recâbler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une puce qui a une fonction spécifique à la sortie de l'usine et qu'elle ne bouge pas, eh bien, vous pouvez la reprogrammer. Vous pouvez la recâbler. Alors pour ça, il suffit d'écrire une espèce de programme dans un langage spécial, de brancher un boîtier à votre carte mère et hop, vous transformez votre processeur, par exemple, en DSP ou alors en carte graphique ou alors en carte son ou alors en truc crypto. Et ça, selon vos besoins. Donc c'est quand même assez intéressant puisque ça veut dire que vous avez une puce qui n'est pas figée et que vous pouvez la reprogrammer à la volée selon vos besoins. Vous pouvez même, en fait, il y a même des puces qui peuvent se reprogrammer en runtime, c'est-à-dire qui peuvent modifier leur câblage en temps réel. Alors, vous pouvez se demander, mais bon, ok, c'est super, mais enfin, pourquoi Intel s'offre ce genre de truc ?
Bah oui, pourquoi Intel s'offre ce genre de truc, Guillaume ?
Eh bien, tout simplement parce que il faut savoir donc que quand on fait un super ordinateur, un data center ou un truc comme ça, comment on fait un super ordinateur ? Voilà. Alors, parce que effectivement, l'acquisition d'Altera, elle n'est pas destinée au grand public. Si tu veux, elle n'est pas destinée à être répercutée dans les PC ou les tablettes. Hein. C'est, on parle là plutôt de la branche business et serveur. Parce que quand même, je pense que si je dois pas dire trop de conneries, disons que 70% des serveurs des super ordinateurs mondiaux sont équipés en deux processeurs Intel. Donc en fait c'est un énorme marché pour Intel et de plus en plus avec le cloud computing, les calculs haute performance, tout ça, c'est vraiment énorme. Et donc ce marché, en fait, c'est un marché qu'il faut chouchouter et c'est un marché qui est quand même, même si Intel est majoritaire et une sorte de petit monopole, et il faut pas s'endormir quoi, parce qu'il y a quand même IBM, il y a quand même d'autres acteurs sur le secteur. Et donc comment on fait un super ordinateur ? Ton avis, comment on fait un super ordinateur ?
Eh ben on prend un FPGA et puis on lui dit sois super. Non ?
Ouais, non, pas tout à fait. En fait, si on regarde un super ordinateur basique, qu'est-ce que c'est ? Bah, en fait, c'est pas très excitant, hein, finalement. C'est juste, vous prenez un PC, puis vous prenez un autre PC, puis vous prenez encore un autre PC, puis vous en prenez des milliers de PC.
Et
puis, vous les mettez en réseau, en réseau très rapide, hein, et puis, c'est tout. Alors, en fait, c'est vraiment pas loin de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, hein, les pros ont des PC qui ne ressemblent pas à des PC. En général, ce sont des racks, c'est-à-dire des espèces de grosses cartes mères, en fait, hein, sur lesquelles on met un ou deux processeurs haute performance, donc des Xeon, typiquement, qui eux-mêmes ont plusieurs cœurs. Ces cartes mères, elles ont souvent énormément, une pléthore de slots de RAM pour pouvoir avoir des grosses quantités de RAM. Mm-hmm. Elles ont aussi des connecteurs pour les disques durs, tout ça. Et puis c'est tout. Elles ont pas de carte graphique, elles ont pas ce genre de trucs parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, on a des facteurs de forme assez plats comme ça qu'on empile dans des espèces d'armoires. Mm-hmm. Donc, ça fait on a des armoires de rack et chacune de ces cartes mères, en fait, a une espèce de gros port Ethernet et on les connecte entre elles et finalement voilà ça vous fait une espèce d'énorme réseau de,
il faut
de...
qu'elles arrivent à communiquer entre elles ces machines quand même.
Oui bah c'est bien ce que je te dis en fait elles sont câblées comme une sorte de réseau Ethernet sauf
et ça
que
suffit c'est ça que je voulais avec dire
des
ça suffit.
En fait c'est fait avec des protocoles qui sont plus rapides que Ethernet ou Gigabit Ethernet, ils ont des trucs un petit peu spéciaux, des InfiniBand et compagnie, mais globalement c'est le même concept, c'est à dire que vous avez des PC en réseau et ces PC en réseau bah après il faut les programmer alors, soit en utilisant des machines virtuelles, soit en programmant les blocs avec des langages spéciaux, des programmes spéciaux, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous faites des très très gros data centers, vous mettez des milliers de PC interconnectés. Bon. Alors, tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même se rendre compte aussi que, est-ce que c'est le plus efficace? En fait, non. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait ça, on a des choses qui sont des data centers qui sont très généralistes. Mais pour faire des calculs particuliers, c'est pas forcément le mieux en fait. Hein. Il faut se rendre compte que par exemple, une carte graphique qu'on met dans le PC pour jouer aux jeux vidéo, c'est des choses qui alignent maintenant plusieurs teraflops de capacité de calcul sur des puces qui ont la taille d'un processeur. Et pour atteindre ce niveau avec un seul avec un processeur normal, on va dire un processeur généraliste, c'est pas possible, il en faut plein, c'est beaucoup plus c'est pas évident. Du coup, on peut se demander, mais alors ça veut dire qu'il y a des puces qui sont plus douées pour certaines tâches spécifiques et qui les font de manière beaucoup plus efficace, c'est-à-dire en utilisant beaucoup moins d'énergie, tout simplement, et qui le font plus vite. Donc, alors évidemment, on peut se dire, mettons ce genre de puce en plus. Mmh. Alors, c'est exactement ce que font certains superordinateurs qui ont des besoins particuliers. Et d'ailleurs, Intel ne s'y est pas trompé puisqu'il a fabriqué une ligne de Xeon qui s'appelle Xeon Phi. Qui sont en fait ça ressemble beaucoup à des cartes graphiques, c'est-à-dire que ce sont des puces sur lesquelles il y a des petits cœurs, mais plein de petits cœurs. Et ces petits cœurs-là, ils sont très doués pour faire du calcul vectoriel, puisqu'ils ont des registres de 256 bits pour faire des calculs vectoriels. Et par exemple, l'ordinateur le plus puissant du monde, en tout cas c'était le plus puissant du monde de la dernière fois que j'ai regardé, c'est un superordinateur chinois qui s'appelle Tian-2. Et ce Tian-2, il a quand même 16 000 nœuds de calcul. Chaque nœud de calcul est composé de 2 Xeon Ivy Bridge et de 3 Xeon Phi.
Et il servait à quoi? Il avait un usage en particulier? Ou il a un usage
c'est,
en particulier?
Alors ça, c'est typiquement un ordinateur de calcul haute performance. C'est-à-dire que c'est un truc qui doit simuler des calculs mathématiques extrêmement complexes et très lourds.
Calculer des décimales de pi, par exemple? Non, c'est con.
Il pourrait, mais c'est surtout modéliser, par exemple, l'atmosphère terrestre avec une grille toute petite, très très fine. Ou alors modéliser, par exemple, des réactions... ce qui se passe dans un cœur nucléaire sans faire péter rien du tout, juste en résolvant des masses d'équations de mécanique quantique complètement incroyables. Et voilà, et pour faire ce genre de truc, en fait, il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul, en fait. Et ces puissances de calcul, les données aussi par les Xeon Phi. Parce que ces Xeon Phi, c'est plein de petits cœurs, ça fait des calculs très spécifiques, mais c'est beaucoup plus efficace. Et donc, le Tian-2, qui a quand même 3 120 000 cœurs à disposition, ça fait quand même beaucoup, c'est quand même pas mal. Et ce truc-là, en fait, tire sa puissance en partie des Xeon Ivy Bridge, mais surtout des Xeon Phi, c'est-à-dire des processeurs qui sont des processeurs spécifiques, en tout cas plus spécifiques que des processeurs standards. Parce qu'en fait, les processeurs standards, ils sont designés pour être généralistes, c'est-à-dire pour être un petit peu bon à tout.
Un peu polyvalent.
Et à force d'être un petit peu bon à tout, ils sont très bons à rien.
Ouais, d'accord.
Et donc, c'est beaucoup mieux, en fait, souvent, quand on a des besoins bien définis, d'utiliser des puces spécifiques, parce que c'est beaucoup plus efficace.
Un exemple, c'est, par exemple, la reconnaissance que peut faire, et on en avait déjà parlé, Google, dans Google Photos, de ce qui se passe dans les images, par exemple.
Bah, par exemple, mais en fait, l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est la carte graphique. C'est-à-dire qu'une carte graphique, quand vous jouez un jeu vidéo, la carte graphique s'occupe d'afficher l'image.
Ouais.
D'afficher l'image, du rendu de l'image. Le processeur, lui, s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire la position des ennemis, votre position, où vous regardez, le nombre de balles, enfin, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on peut se demander, mais cette carte graphique, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait des calculs pour chaque pixel de l'image. Elle est capable d'exécuter un programme complet, souvent un programme assez complexe d'ailleurs, et elle fait ça 60 fois par seconde sur 2 millions de pixels pour chaque image. Donc c'est un volume de calcul qui est absolument incroyable, et si on voulait faire la même chose avec le processeur, bah écoutez, c'est très simple, essayez de prendre un jeu vidéo et de couper l'accélération graphique et vous allez voir ce qui se passe. C'est juste pas possible. Donc on voit là tout simplement qu'en fait, bah, vous avez une puce d'un côté, votre processeur, vous avez une autre puce de l'autre côté, votre carte graphique. Elles se ressemblent énormément, ces puces, hein, mais vous voyez bien qu'elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques et les mêmes domaines en fait, d'expertise, et qu'il y en a une qui est très très bonne pour faire de la 3D, calculer vos images, tout ça. Mais par exemple, elle serait plutôt mauvaise à d'autres charges. Par exemple, pour faire de la base de données, si vous faites des bases de données sur une carte graphique, bah, c'est pas l'idéal, quoi.
Ouais,
donc en fait, on voit bien que vous avez des puces qui peuvent être personnalisées pour certains besoins. Sauf que à la sortie de l'usine, vous avez quand même une carte graphique ou un processeur ou une carte son ou un truc comme ça, quoi. Alors, est-ce que ce serait-il pas bien de pouvoir changer ? C'est-à-dire, à la sortie de l'usine, vous avez une puce. Si vous avez besoin de faire du calcul graphique, pof, vous la programmez, vous faites une carte graphique. Si vous avez besoin de faire des calculs cryptographiques, pof, vous la reprogrammez, elle vous accélère à l'équipe des calculs crypto. Si vous avez besoin d'une carte sonore qui, par exemple, vous applique des effets, pouf, vous la reprogrammez, hop, vous avez une carte son. Ce serait pas trop beau, ça, avec une seule puce.
C'est la différence, finalement, entre acheter un jouet et un baril de Lego, quoi. Avec un baril de Lego, tu fais le jouet que tu veux. Et avec le jouet tout fait, tu fais très très bien le jouet qui est prévu, mais par contre tu peux pas faire d'autres choses. Est-ce que l'analogie fonctionne ?
Eh ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, le FPGA, donc c'est une type de puce qui est reprogrammable ou plutôt recablable, puisqu'en fait c'est une histoire de câblage à l'intérieur. Une puce FPGA, c'est une sorte d'ensemble de portes logiques, et ces portes logiques vous les raccordez comme vous voulez.
D'accord.
Et vous pouvez les re-raccorder autant de fois que vous voulez. Et en fait, c'est très très intéressant, à tel point qu'Intel avait déjà l'an dernier rajouté des petits FPGA dans ses Xeon à la demande d'Oracle pour justement accélérer le traitement des bases de données. Et apparemment, ils avaient annoncé un gain de performance de 20 fois comparé à un processeur traditionnel grâce à cette petite puce FPGA qui avait été vraiment programmée pour cette tâche spécifique. Et donc, Intel se dit, c'est pas con, hein, finalement, ce genre de truc. Et c'est pas le seul à se dire que c'est pas con, parce que IBM aussi, en fait. IBM, c'est une vieille gloire du super ordinateur, qui a sa propre architecture de processeur, qui s'appelle Power, qui vient de sortir.
D'où les PowerPC des anciens Mac, au passage.
Exactement, tout à fait. PowerPC est une architecture dérivée, ce sous-ensemble en fait de Power. Mm-hmm. C'est dérivé de Power qui est l'architecture d'IBM depuis toujours en fait. Hein. Mm-hmm. Et les derniers en date, c'est les Power 8, les Power 8, donc la 8e génération. Et cette 8e génération, en plus d'offrir un processeur très puissant, hein, destination des serveurs, donc c'est quand même un truc pro, assez mastoc, elle a une particularité, c'est qu'elle a une interface spécifique qui s'appelle CAPI. C'est mignon, un capi. C'est presque ça. C'est un truc de communication, en fait, effectivement. C'est un truc de communication. Mais communication avec quoi ? Eh ben, avec l'extérieur, avec un autre truc qui a une interface capi. Et en fait, le but avoué, c'est de pouvoir faire communiquer directement, via le bus PCI, le processeur, enfin, en tout cas, un des processeurs, parce qu'il peut y en avoir plein, hein, avec une puce FPGA qu'on rentrerait dans le serveur sur un port PCI. Et en fait, grâce à CAPI, les deux processeurs, le FPGA, le processeur donc recablable, qu'on peut recabler, et le Power 8 pourraient travailler ensemble sur un pied d'égalité. Et en particulier, ils pourraient avoir accès aux mêmes ressources et en particulier au même espace mémoire, ce qui permettrait de faciliter grandement l'intégration des FPGA dans les serveurs. Et c'est une excellente initiative, je pense, parce que c'est vraiment un facteur différenciant pour IBM. D'ailleurs, IBM s'est allié à Xilinx. Xilinx, hein, donc je suppose que ça se prononce
Xilinx.
Voilà, Xilinx, qui est pas une entreprise très connue, et pourtant c'est l'inventeur du FPGA. C'est une entreprise qui a été fondée en 84 et qui a sorti sa première puce en 85 et qui aujourd'hui fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est pas rien du tout, c'est le numéro 1 en fait de la puce reprogrammable dans le monde.
Donc Xilinx et Altera faisaient tous les deux des FPGA, Altera racheté par Intel et IBM s'associant et non pas rachetant du coup des FPGA de Xilinx.
Oui. En fait l'association une initiative d'IBM, qui est une initiative en fait éducative, on va dire, puisqu'IBM lance SuperVSL. SuperVSL, c'est un cloud en fait éducatif qui met à disposition des étudiants et des chercheurs des VM, des machines virtuelles, sur Power8, et avec la possibilité d'avoir une interface pour programmer des FPGA et les tester en fait dans le cloud. Et les FPGA sont fournis par Xilinx pour IBM.
D'accord.
Et ça ressemble effectivement à une espèce de réponse, on va dire, d'Intel qui s'offre Altera. Parce que, effectivement, ça peut être une excellente chose. Alors, le FPGA, à quoi ça va servir? Donc, comme tu le disais, parce que je t'ai un peu coupé avec cette histoire de la carte graphique, mais tu as parfaitement raison. La reconnaissance de visage, et qui utilise donc des réseaux de neurones, peut parfaitement être accélérée avec des FPGA spécifiques programmés pour. Et on peut multiplier les performances comme ça uniquement en utilisant des puces qui sont mieux adaptées, quoi. Mmh. Et c'est très très important quand on a des volumes de données qui sont absolument énormes à traiter. Bon, ce qui est le cas de Google, par exemple, hein, avec Google Photos, dont on a parlé dans le dernier épisode de Tech Café, qui utilise du machine learning et des réseaux de neurones sur toutes les photos qui sont uploadées sur Google Photos, et ça se chiffre en milliards de photos. Donc ouais. C'est vraiment pas rien. C'est-à-dire chaque petite amélioration et d'efficacité qu'on peut avoir, il faut la prendre, parce que c'est absolument, c'est critique, quoi, quand on a des volumes de données aussi fabuleux. Et on pourra dire effectivement que le FPGA, c'est vraiment un truc d'avenir, je pense, dans le supercomputing, quoi, chez les serveurs, parce que même pour les applications les plus standards du type gestion des bases de données, on peut obtenir de gros gains et voire même de manière assez amusante. Par exemple, IBM, grâce à CAPI et au FPGA qui sont associés, est capable d'émuler en fait 56 téraoctets de RAM et de gérer des bases de données de 56 téraoctets directement.
Truc improbable, 56 téraoctets de RAM.
Mais c'est le pire, c'est que c'est absolu, c'est pas si improbable que ça, parce que imagine le volume de la base de données d'Amazon ou d'eBay.
Ah oui.
C'est chaque les grands
même l'indexation
web ont
Google.
Plusieurs bases de données, c'est ou même imagine l'index. Ouais. Avec un grand I, l'index de Google.
Ouais,
l'index
c'est
de
ouf,
Google, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Si on arrive justement à accéder de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace aux données, parce qu'une base de données, c'est bien mignon, mais bon, on peut avoir 25 gigas de RAM. Si on a 25 téraoctets de données qui sont sur des disques durs, pour y accéder, c'est pas facile.
Please wait.
Il faut cacher les trucs et tout. Bon, si on arrive à accéder à ça, ne serait-ce que 10 fois plus rapidement, en combinant FPGA plus SSD et compagnie, ça peut représenter des gains qui sont absolument énormes, hein, des gains de temps qui sont absolument énormes. Donc c'est pas du tout anodin, en fait.
Alors, juste une question pour être sûr de bien comprendre. On a d'un côté les microprocesseurs plus généralistes, on va dire, même s'il y a différentes familles dedans, il y a des microprocesseurs plus généralistes, et les FPGA qui semblent plus spécialisable, donc plus performant dans une tâche donnée, mais du coup il y a quand même le côté généraliste aussi des FPGA, puisque finalement ils peuvent couvrir plein d'usages différents, mais juste pas en même temps. Il faut les reprogrammer, les recâbler, comme tu dis. Donc il y a vraiment d'un côté les généralistes qu'on reprogramme pas et les reprogrammables spécialistes. Est-ce que je simplifie trop les choses?
Non, ça va. Mais si tu veux, le truc, c'est que on peut se poser la question, par contre, effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que des FPGA.
Ben oui, c'est un peu la question que j'allais te poser.
Puisqu'effectivement, votre processeur principal, le processeur de votre PC, est-ce que ça pourrait pas être un FPGA ? La réponse est oui, ça pourrait parfaitement être un FPGA.
Pour des coûts de production,
et pas un ASIC. Un ASIC, donc ASIC, c'est Application Specific Integrated Circuit, hein, donc c'est un circuit circuit intégré spécifique qui bouge pas, qui peut pas être modifié, alors que le FPGA peut être modifié. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que malgré tout, un FPGA, le fait qu'il soit flexible, le fait cette flexibilité, en fait, elle arrive avec un coût, monétaire, arrive avec un coût au niveau de la vitesse, c'est-à-dire que un ASIC et un FPGA, en général, l'ASIC sera plus efficace, consommera un peu moins, sera un peu plus rapide, coûtera moins cher qu'un FPGA.
La consommation aussi, peut-être, non ?
La consommation aussi, oui. La consommation aussi. Les FPGA sont remarquablement efficaces, en fait, on va dire, étant donné leur talent. Mais quand même, faire un ASIC bien fini, c'est quand même ce qui est un petit peu moins cher et un petit peu plus efficace. Donc c'est pour ça, en fait, que les FPGA ne sont pas partout, tout simplement. Ouais.
Ok. Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, les entreprises qui produisent des FPGA vouloir faire l'inverse de ce qui se passe entre Intel et Altera, mais racheter des entreprises qui font des microprocesseurs plus classiques pour compléter un peu leur gamme ?
Écoute, c'est une possibilité. Il y a des rumeurs, enfin, en tout cas, j'ai lu des trucs, effectivement, comme quoi il serait logique pour Xilinx de racheter AMD. Parce que AMD, c'est tout simplement l'autre gars qui fait du processeur x86, quoi, compatible Intel.
Puis donc ça permettrait.
En plus, oui, voilà, Xilinx, c'est pas non plus. Enfin, Xilinx, c'est assez gros. Mmh. Et AMD, ça reste très gros, AMD, faut pas rêver. Mais enfin, quand même, ça. C'est vrai qu'il n'a pas trop le vent en poupe. Donc, effectivement, si c'était le cas, Xilinx se retrouverait avec une solution de processeur. Il pourrait fabriquer donc des processeurs qui allient donc la technologie FPGA avec des ASIC x86 sur un pied d'égalité avec Intel. Cela dit, AMD n'est pas Intel. La part d'AMD dans les serveurs, elle est assez faible. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'en fait, Intel possède un énorme avantage parce que lui, il a ses propres usines. Et ces usines, ce sont des usines top niveau. Ce sont les usines qui représentent l'état de l'art de la gravure de microprocesseurs. Et que Intel pourrait fort bien utiliser ces usines pour graver du FPGA et pour graver des FPGA qui seraient d'excellente qualité et d'excellente facture. Alors que si Xilinx rachetait AMD, il rachèterait des brevets, il rachèterait des schémas de processeurs, mais il rachèterait aucune usine. Parce que AMD n'en a plus, tout simplement, parce que GlobalFoundries ne fait plus partie d'AMD. L'intérêt pour Xilinx de racheter AMD est bien moindre que l'intérêt d'Intel à racheter Altera.
Ouais, d'accord. Bon,
et Xilinx plus AMD ne serait pas du tout à égalité avec Intel plus Altera. Donc la question se pose, en fait, de la pertinence du rachat de Xilinx par AMD. C'est pas du tout évident. Ouais, d'ailleurs, Xilinx, bien que ce soit le premier et le plus grand fabricant de FPGA, il va falloir qu'il se pose un peu des questions, parce que Intel plus Altera, ça pourrait être un concurrent extrêmement sérieux.
Mais c'est-à-dire, enfin, là tu dis que c'est le plus gros constructeur, ça veut dire que si Altera a été racheté 16,7 milliards de dollars, est-ce qu'il y a une idée du chiffrage de ce que vaut un Xilinx, par exemple ?
Honnêtement, non, je pourrais pas dire. Je te dis que Xilinx fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Ouais. C'est le numéro 1 historique, hein, du FPGA, donc il aurait sans doute été encore plus cher, parce qu'ils ont plus une gamme qui, à mon avis, beaucoup plus étendue de produits. Donc ce serait très difficile pour moi de te donner un chiffre, mais ce serait certainement beaucoup plus cher encore qu'Altera.
D'accord. Écoute, c'est fascinant en tout cas, parce qu'avec des sommes pareilles, moi j'étais habitué sur des sommes comme ça pour, tu sais, des rachats d'Instagram par Facebook, etc. Mais alors là, ça dépend.
C'est un petit peu plus sérieux, moi, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu moins. Ça fait moins bulle. On a des super ressources matérielles qu'on vient de détailler. Et puis alors, j'ai eu le sentiment de bien comprendre ce que c'était que que ces pros plus généralistes, plus spécialisables, reprogrammables, etc. Je découvre vraiment le sujet. Après, il y a un sujet qu'on avait déjà abordé sur lesquels il y aura peut-être des petites news. C'est les interprétations, j'allais dire, logicielles, enfin les instructions dématérielles lors de la programmation des applications. Et on avait déjà parlé de Metal, cette surcouche qui permettait d'exploiter les ressources matérielles de manière très directe et très efficace pour iOS. Et dans la dernière keynote, Apple nous a dévoilé la disponibilité de Metal pour OS X. Alors, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, Guillaume ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus, ça ?
Alors, donc Metal, donc oui, effectivement, comme tu le dis, c'est une interface qui...
Mal, hein.
Non, de toute façon, c'est ça, je veux dire, après, mis à part raconter tout ce qu'on a raconté sur les interfaces dans les précédents podcasts, c'est vrai
d'ailleurs.
Que, voilà, donc on va sans doute pas tout redire, hein. Donc c'est effectivement une API de bas niveau pour le graphique, donc par rapport à OpenGL, qui était donc utilisé sur les Mac hein, jusqu'à présent. C'est une librairie qui est donc propriétaire à Apple et qui est explicitement orientée vers le graphique et qui était au tout début en fait uniquement réservée à iOS.
Ouais.
Et en fait, c'était un petit peu logique, tout simplement parce que au plus vous avez au plus vous avez un device qui est limité au niveau matériel, au plus c'est logique d'éliminer les couches logicielles pour aller directement à l'objectif, quoi, et donc être un petit peu plus efficace.
Sauf que la tendance, et Apple nous l'a montré avec les derniers MacBooks, c'est d'avoir des ressources graphiques, et j'allais dire des ressources même de puissance graphique, mais même au niveau microprocesseur, plus proche de ce qui se fait en mobilité. Les MacBooks, ça devient des ordinateurs avec des puces. Enfin, on avait déjà parlé d'ailleurs des microprocesseurs qui commencent furieusement à se rapprocher du profil d'un appareil 100% mobile, en fait. Donc ça fait sens que du coup ce soit disponible petit à petit sur OS X finalement.
Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'effectivement, ça fait autant de sens évidemment sur un iPad Air que sur un MacBook Air. C'est pas faux, tout à fait. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on avait donc sur les tablettes et les téléphones, ils utilisent déjà un sous-ensemble plus petit d'OpenGL. Bon, là, ils ont passé à Metal parce que voilà, c'était un petit peu la mode aussi, hein, parce qu'il y a Metal, on avait déjà parlé de Vulkan, on avait déjà parlé de DirectX 12. Il y avait un petit peu tous dans la même direction, quoi, hein, tous ces trucs-là. Et donc, le but de Metal, c'est aussi de permettre une meilleure utilisation des CPU, parce qu'en général, les API graphiques, elles utilisent un seul CPU, quoi. Elles ont été programmées pour OpenGL, le début de la programmation est comme DirectX, d'ailleurs, ça a commencé il y a un bon moment maintenant. Mmh. À l'époque, il n'y avait qu'un seul cœur. Bon, et donc, il y a certaines choses de ces librairies qui sont encore très monocœur, quoi. En particulier, c'est les requêtes qu'on fait quand on demande en fait à la carte graphique d'afficher un truc. Voilà, vous avez un truc, vous voulez l'afficher, vous faites une requête pour l'afficher. Bon, une fois que c'est parti, la carte graphique, elle se démerde et elle fait tout ça. Voilà, elle affiche très très vite parce que voilà, tout est parallélisé. Mais il faut quand même faire certains trucs qui se font de manière séquentielle, quoi. Avec Metal, on peut utiliser, et comme avec DirectX 12 d'ailleurs, on peut utiliser plus de ressources processeurs pour envoyer un plus grand nombre de requêtes à la fois, en fait. Et donc ces requêtes pour afficher des trucs, ça permet donc justement d'afficher plus de trucs ou d'afficher les trucs qu'on affiche plus vite. Alors, c'est pas étonnant finalement, effectivement, comme tu le dis, que Metal arrive sur macOS X, donc le prochain macOS X, El Capitan. Il sera même au cœur en fait de macOS X, puisque tous les appels graphiques faits par le système d'exploitation passera par Metal et plus par OpenGL. Donc, est-ce que ça va permettre de révolutionner ? Bon, alors, c'est toujours pareil. Normalement, vous ne verrez pas vraiment la différence parce que c'est souvent déjà très fluide, en fait. Hein, vous ne verrez pas trop la différence. Sur des machines qui sont vraiment CPU limitées, c'est possible de voir un petit peu d'amélioration, mais ce n'est pas énorme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que viennent de sortir, très récemment, quelques tests en fait sous iOS cette fois, une petite comparaison des performances de Metal avec OpenGL sous GFX
Bench. Mais ça fait
Bench.
Un an que c'est dispo Metal sur iOS et on n'a que des tests que maintenant.
Et bah, on a des textes, j'ai fait, oui, alors...
Mais cela dit, c'est peut-être normal, hein, peut-être qu'il faut vachement de temps avant de l'implémenter et de l'exploiter, mais j'ai souvenir de que la précédente...
En fait, c'est plutôt un problème de programmation, c'est-à-dire qu'il faut que le temps que les programmeurs programment des trucs dessus.
D'accord, quoi. C'est fou, ça.
Il y a des benchmarks, hein, okay. Des benchmarks fiables dessus. Donc, c'est d'accord. Un petit peu... Donc là, je parle justement de GFX Bench, mm-hmm. qui permet de voilà, c'est un benchmark synthétique, hein, plus ou moins, enfin, plus ou moins, il y a des bonnes parties synthétiques, une partie real world, quoi, avec des scènes un petit peu plus réalistes, des scènes un petit peu plus réaliste, qui permettent donc de voir la différence entre Metal et OpenGL, voilà, pour voir un petit peu. Mm-hmm. Et donc, ce que ça donne, en fait, c'est un truc qui est assez caractéristique, c'est-à-dire que quand on teste l'overhead, c'est-à-dire la part de performance qui est bouffée par l'API, on se rend compte qu'en fait, il y a... En général, on a trois fois moins d'overhead en Metal qu'en OpenGL, c'est-à-dire que quand on demande à la librairie de faire quelque chose, mm-hmm. elle le fait et l'inefficacité qui est introduite par le fait qu'on ait une couche, finalement, elle est divisée par 3. Mais cela dit, il faut quand même bien se rendre compte que c'est dans des cas vraiment très particuliers quand on ne fait que des appels très simples et quand on la surcharge. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que si on regarde par exemple les tests sur des scénarios réalistes, là c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contrasté. C'est-à-dire que sur une scène classique, donc la scène Manhattan et la scène T-Rex, on passe de 41 FPS avec Metal à 37,8 avec OpenGL sur la même machine. Mmh. Et on passe de 78 pour T-Rex avec Metal à 70. Sur l'iPad Air 2 en l'occurrence pour la même machine entre Metal et OpenGL. Mmh. Donc on a des différences qui sont beaucoup 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 plus faibles. Mmh. Et c'est plus ou moins pour ça que je dis que bon, dans les cas particuliers où on verra pas énormément de différence de performance. Néanmoins, il faut quand même se dire une chose, c'est que c'est à peu près ce 10% d'amélioration de fluidité, c'est pour des scénarios qui sont prévus justement pour ne pas être limités par les draw calls. Donc finalement, ce qu'il faut se dire, c'est pas tellement qu'on va avoir des jeux plus fluides, c'est surtout qu'on aura des jeux plus détaillés. Parce qu'en fait, maintenant que l'API est plus limitée et qu'on peut envoyer beaucoup plus de requêtes simultanément, eh bien, tout simplement, les développeurs vont le faire. Les graphistes vont le faire. Et c'est-à-dire qu'ils vont plus se limiter et on pourra avoir plus d'objets, en particulier des petits objets, tu vois, on pourra avoir plus
des
d'objets.
Des petits papillons.
Plus, voilà. Par exemple, offers. Des petits papillons. Mais c'est typique, hein. C'est-à-dire que, par exemple, Epic Games a fait un test qui s'appelle Epic Zen Garden. Et Epic Zen Garden, en fait, ils se rendent très bien. Alors 1440x1080 sur l'iPad avec anti-aliasing et il anime 3500 petits papillons.
C'est ce qui était présenté à la WWDC 2014 d'ailleurs.
Exactement. Mais donc c'est le truc, si tu veux, c'est ça, c'est qu'il faut s'attendre en fait à ce que les développeurs tirent parti de ce nouveau truc de performance, non pas pour faire les mêmes jeux qu'avant plus fluides, mais pour faire des jeux plus détaillés avec plus d'objets à l'écran.
En gardant la fluidité.
En gardant la même fluidité, exactement.
Alors, j'ai une question peut-être qui n'a strictement rien à voir, Guillaume, mais tu vas peut-être me tomber dessus en disant que ça n'a rien à voir. Apple, dans la dernière WWDC, a annoncé, pour d'une part, la dispo de Swift 2, qui est la nouvelle itération de leur langage de développement, qui visiblement recueille beaucoup de bons sentiments de la part des développeurs. Quand ils en parlent souvent bien. Et il y a eu une annonce de disponibilité de Swift alors sur Linux. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un environnement de développement sur Linux ou est-ce qu'il s'agit de la possibilité de développer en Swift des applications pour Linux? Je ne sais pas si tu as suivi cet aspect-là, Guillaume.
Alors malheureusement, je n'ai pas suivi du tout, donc je suis totalement incapable de te le dire. Et je ne sais pas.
On va faire un appel aux gens qui nous écoutent, qui sont un peu spécialistes, puisque j'ai vu que c'était Swift, dispo pour Linux.
Swift sous Linux.
J'ai vu ça, alors mais peut-être que je me trompe complètement, hein, mais c'est ce que j'avais suivi. Et du coup, je me disais, DirectX évidemment dispo sur Windows. Est-ce que ça voudrait dire que Metal serait, j'imagine que non, du coup disponible pour des applications graphiques sur Linux. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi.
À mon avis, c'est rigoureusement impossible.
D'accord.
Pas d'un point de vue technique, bien sûr. Ouais. Mais Metal, c'est une composante. De toute façon, on assiste plus ou moins là, comme j'avais déjà plus ou moins dit. pour autre chose, une espèce de balkanisation des API graphiques. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que, grosso modo...
Rien à voir avec Balkany, le maire de...
Non, toujours pas. Mais par contre, moi, ce qui me saoule un petit peu en ce moment, c'est que, au début, si tu veux, on avait des tas de cartes graphiques et c'était la merde parce qu'on pouvait pas les programmer comme il faut. Il fallait à chaque fois faire un driver pile. Enfin, quand vous aviez à l'époque, des 3DFX, quand vous aviez une Rage Pro, vous pouviez pas utiliser le même pipeline que si vous aviez une 3DFX. Ben, c'était l'enfer. Bon. Mm-hmm. Mais après, il y a eu 3 DirectX. En réponse à ça, bon, sous Linux, il y avait un peu, OpenGL, c'était une librairie plus orientée vers les pros et le computer graphics, quoi. Donc c'est Silicon Graphics qui l'a développé au début, tout ça. Bon, mais globalement, voilà, le but c'était de faire une couche qui permettait justement de faire abstraction de tous ces trucs-là, quoi. C'est-à-dire, vous aviez n'importe quelle carte graphique, mais si elle parlait le DirectX, tout était bon. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, bien sûr. Hein. Bon, là, le truc, c'est qu'avec la multiplication des API propriétaires, on assiste à une sorte de retour en arrière. C'est-à-dire que vous programmez un jeu, bon, super, vous le programmez en quoi ? Si vous le programmez en DirectX, il va être disponible sur à peu près tout le monde entier. Bon, mm-hmm. Super. Mais c'est pas forcément le plus efficace. Alors, si vous voulez être efficace, vous programmez en quoi ? Vous programmez en Vulkan ? Bon, Vulkan, très bien, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti déjà de base, donc on verra. Programmez sur DirectX 12. Bon, vous êtes sur DirectX 12, mais donc vous êtes limité à Windows 10. Mm. Il ne sort pas sur DirectX 12, c'est exclusif à Windows 10. Mm. Vous ne pouvez pas évidemment le porter sous Linux. Vous ne pouvez pas le porter sur macOS. Si vous voulez être dispo sur macOS et être le plus efficace possible, il faut développer en Metal, mais Metal est compatible avec que dalle.
Oui, c'est ça, c'est toujours cette histoire de compatibilité.
Donc là, on assiste à une sorte, chacun se retranche avec son super écosystème de fou, mais qui est compatible avec rien d'autre, hein, DirectX 12 d'un côté, Metal de l'autre, et donc du coup, pour faire des portages, eh bien ça devient chiant, quoi. Et ça, c'est vrai que Metal, c'est bien beau, mais enfin beau. Pourquoi, parce que Apple aurait très bien pu choisir Vulkan. Mm. Ils avaient choisi OpenGL et finalement c'est Vulkan qui fait suite. Ben non, évidemment, ils ont développé leur truc. Maintenant, si tu veux développer sur Apple, il faut apprendre leur langage, le Swift. Il faut développer en Metal leur API graphique. Et donc, c'est juste casse-couille à un moment donné. Parce que, tu programmes un Apple, il faut tout apprendre d'Apple et vous pouvez utiliser ce savoir nulle part ailleurs, quoi. Et moi, ça me saoule un petit peu. Bon.
Ouais, c'est-à-dire que l'expérience Apple. Dont on fait part assez régulièrement de dire que on est dans un écosystème va jusque dans l'écosystème du développement et quand on développe pour Apple on développe que pour Apple quoi grosso modo.
Exactement, tu développes sur Android, tu développes en Java plus OpenGL.
Oui.
Grosso modo ce qui est portable à peu près partout. Vous pouvez programmer sous Linux, vous pouvez programmer sous Windows, aucun problème. Il y a même des solutions pour avoir des applis qui s'exécutent à la fois sur les Windows, Linux et Android quoi. Mmh. C'est sur Apple, c'est pas tout à fait pareil. Donc Metal disponible sur autre chose que sur Mac, jamais de la vie quoi.
Et c'est la raison d'ailleurs entre parenthèses pour laquelle on peut arriver de manière indirecte suite aux annonces de la build de Microsoft à avoir des applications Android qui soient potentiellement portables pour Windows 10 quoi.
Et mais c'est vrai que c'est pas possible. Bon. Je sais pas si c'est Swift ou si c'est Taylor Swift ou si je sais pas, disponible ailleurs mais. Je crois qu'ailleurs que chez Apple, c'était leur Swift sans doute.
Je te propose qu'on fasse un peu d'archéologie. Du coup, il semblerait que les MIPS soient en pleine renaissance et une seconde vie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les MIPS ? C'est pas des biscuits. Hein. Ça fait un peu MIPS. Je mangerais bien un MIPS. Non.
Tiens, tu veux dire les PIMS ?
Ah mince, c'est ça.
Ouais, les trucs, les biscuits dont la recette est cachée. Attends, c'est quoi ? La recette est cachée dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits. Oh. T'en souviens de ça ? Non, enfin, oui. Bon. Ça nous a marqué. Et les MIPS, c'était un peu pareil. Hein. C'était caché au fond d'un puits depuis un bon moment. Mais en gros, MIPS, c'est une famille de processeurs, comme ARM est une famille de processeurs, comme les processeurs Intel ont leur propre famille, hein, x86. Mmh. Et MIPS, c'est aussi une famille qui a eu de beaux jours dans les années 90, début des années 2000. À l'époque, on les trouvait un petit peu partout. On les trouvait dans les stations Silicon Graphics, dans les stations de travail de la marque, mais aussi dans les PlayStation 1, PlayStation 2, dans la PSP aussi d'ailleurs. On les trouvait dans l'espace aussi, il y a certaines...
Ah
Oui, il y a certaines sondes qui ont utilisé des processeurs Dursi, qui étaient basés sur MIPS, qui étaient d'ailleurs à peu près pareils que ceux de la PlayStation 1.
Ouais.
Je ne sais plus quelle sonde exactement, mais on peut retrouver ça. Enfin bon, donc c'était une, voilà, c'est un truc qui n'est jamais vraiment mort, hein, mais qui a, si tu veux, qui s'est beaucoup éclipsé face à un ARM en particulier, qui a eu un essor incroyable ces dernières années, avec la mobilité, quoi. Et bon, MIPS, c'est quand même une architecture sympa qui, finalement, est devenue très, très minoritaire et qui a fini par être rachetée par Imagination Technology, qui sont les petits gars qui sont derrière les puces graphiques PowerVR, qu'on trouve largement dans les processeurs Apple, dans les processeurs Apple, dans tous les devices Apple, entre autres. Hein. Donc c'était plutôt des fortiches déjà, ils ont racheté donc une solution de processeur, comme ça maintenant ils peuvent faire leur propre système sur puce. Un petit peu comme Apple d'ailleurs, ou comme Samsung, donc ils peuvent sortir ces trucs-là. Et toujours est-il que donc ils ont la licence et qu'ils peuvent la vendre aussi, hein. Ils peuvent licencier MIPS à d'autres gens qui font eux-mêmes des puces. Et ils ont même fait évoluer MIPS en fabriquant la série Warrior, qui sont des cœurs MIPS qui sont plus ou moins de même tenue que les processeurs Cortex A9, etc. Donc c'était voilà, donc ça fonctionne toujours, mais c'est pas très très utilisé. Et de manière assez rigolote, il y a un système sur puce russe fait par Baikal Electronics qui s'appelle le Baikal T1 et qui utilise un MIPS dual core, dual warrior P de 5600 pour être précis. Donc c'est un 32 bits, 1 gigahertz, 1,2 gigahertz, qui est très orienté communication, puisqu'il est dedans, t'as des contrôleurs Ethernet et contrôleurs SATA USB, mais apparemment t'as pas de carte graphique, donc c'est un truc assez spécifique, hein. Et bon, voilà, donc ce qui est amusant de noter, c'est que c'est quand même un processeur qui est pas si pourri et qui consomme que 5 watts. C'est une puce qui est en quelque sorte 100% russe, et c'est assez amusant de voir que voilà, les Russes essayent, comme les Chinois d'ailleurs, qui avaient aussi adopté l'architecture MIPS dans leur Longzone, essayent de s'affranchir un petit peu de l'hégémonie américaine et de prendre une espèce de voilà d'autonomie petit à petit, d'une autonomie technologique.
C'est des réminiscences de la guerre froide, ça. C'est marrant.
Non, mais c'est à peu près logique, hein, que des grandes puissances, hein, comme la Chine en particulier aussi, par exemple, essayent d'avoir une forme d'indépendance en un petit peu tout. Et donc, oui, voilà, à ce niveau-là aussi.
J'ai une question, sans doute, peut-être qui va te paraître débile, mais qui achèvera de ma compréhension du sujet. Quand on parle d'une architecture, parce que là on parle d'une architecture MIPS, de quoi est-ce qu'on veut parler exactement ? Est-ce qu'on veut parler du dessin qui est gravé et qui fait le microprocesseur ? De quoi on veut parler quand on parle d'une architecture ? Et je ne sais pas si ma question est débile.
On parle de plusieurs choses différentes, hein, qu'on assimile souvent, et peut-être à tort d'ailleurs. Mais grosso modo, pour le dire vite, quand on parle d'architecture, souvent on parle de langage en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on parle d'architecture Intel, on parle moins du design de la puce que du langage assembleur qui est parlé par la puce.
D'accord.
Ce langage assembleur, il est différent pour chaque famille. C'est-à-dire qu'en grosso modo, les processeurs Intel se comprennent tous entre eux. En tout cas, rétrocompatibles. Voilà, ils sont tous rétrocompatibles. Et rétrocompatibles très 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 loin, hein, puisqu'en théorie, un processeur Core i7, il sait reconnaître de l'assembleur qui était fait pour un 80-86.
Tu peux rappeler ce que c'est que de l'assembleur ? Moi, j'ai fait un UT informatique, alors j'en ai fait un peu de l'assembleur, mais c'est peut-être intéressant de rappeler aux gens.
L'assembleur,
c'est le langage assembleur, quoi.
Ben, l'assembleur, c'est la version lisible pour les humains du langage machine. Hein. Le langage machine, c'est une série d'impulsions électriques, hein, à la base. Hein. C'est clair. On a une puce avec des papates, hein, et puis on envoie des impulsions sur les papates d'un côté, et puis de l'autre côté, il ressort d'autres impulsions sur les papates. C'est la réponse. Voilà.
D'accord.
Bon, alors évidemment, c'est un peu dur, hein, comme ça. Ces impulsions, évidemment, ben, c'est du binaire. Ça représente des nombres. Donc en fait, on envoie des nombres et il ressort des nombres. Alors évidemment, dans les nombres, il y a les nombres qui codent pour des instructions. Et puis il y a des nombres qui sont les opérandes, c'est-à-dire les trucs sur lesquels on fait les opérations.
Mmh.
Donc en fait, on a en général un opérateur, par exemple add, additionner, et puis on envoie comme nombre ce qu'on veut additionner, A plus A et B, et puis de l'autre côté, on reçoit A plus B. Bon, voilà, grosso modo, ça marche à peu près comme ça. C'est très, très schématique, mais c'est à peu près ça. Et donc finalement, le langage machine, c'est ce sont ces nombres-là, c'est-à-dire voilà, ces nombres-là, c'est quel nombre correspond à quelle opération. C'est l'ensemble des opérations qui sont possibles et comment on les code. Mm-hmm. L'assembleur, c'est une manière de le faire de manière un petit peu plus... Parce que l'assembleur, c'est un langage qu'on écrit en texte hein, et qui est un petit peu plus lisible par les humains. Donc on assimile souvent assembleur à langage machine, même si c'est ça va un petit peu vite. Mais globalement, l'assembleur, c'est le langage du microprocesseur le plus basique. C'est-à-dire c'est vraiment c'est le langage proche, qui quoi. Comprend. Voilà, ouais. C'est là où on est le plus proche du métal, en quelque sorte. Donc effectivement, l'assembleur Intel... Ben, tous les processeurs Intel se comprennent, utilisent le même assembleur, on va dire. Et c'est pareil pour... Alors, évidemment, il y a des évolutions du langage au fur et à mesure du temps. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'instructions qui ont été rajoutées entre le 80-86 et le dernier Core i7. Ça, c'est sans doute bien. Mais il y a une rétrocompatibilité, et puis, bon, voilà. Il y a une forme de... Après, pour ARM, c'est pareil. Il y a un langage... Et évidemment, il y a des évolutions, hein, ARM V6, V7, V8...
Mais c'est pas l'assembleur. Dernièrement.
Les assembleurs ARM sont aussi tous... les processeurs ARM se comprennent entre eux parce qu'ils ont un assembleur qui est rétrocompatible, on va dire, aussi pareil. Pour MIPS, c'est à peu près pareil. Après, il y a toujours des histoires d'architecture qui sont des histoires un petit peu plus profondes de philosophie de design et microprocesseurs. C'est-à-dire un microprocesseur, comment on dit qu'il est designé, c'est-à-dire est-ce qu'on a par exemple un set d'instructions qui sont les instructions qui sont simples ou qui peuvent être plus complexes parce que il peut y avoir beaucoup de cas différents, par exemple bon c'est un processeur Intel par exemple. Quand on fait une opération de déplacement d'une case mémoire à une autre case mémoire, il y a énormément de cas possibles. Et tous ces cas possibles sont pris en compte, en fait, par le processeur. Ils sont compris par le processeur. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément d'instructions différentes qui sont comprises par le processeur, à cause des variantes et tout ça. Et ça, ça a été par exemple, pour Intel, c'était ce qu'on appelait à l'époque les processeurs CISC, parce qu'ils comprenaient énormément d'instructions. Bon. À l'inverse, les processeurs RISC, dont ARM et MIPS font partie, eux, ils avaient une philosophie de design beaucoup plus simple, où on avait effectivement beaucoup moins d'instructions qui n'utilisaient que des cas particuliers finalement, et après on se démerdait avec ça et bon pour faire des programmes. C'était assez aujourd'hui c'est un petit peu différent encore parce que finalement c'est plus très clair. Donc quand on parle d'architecture en fait on parle plus du langage des processeurs. Et bien entendu, on parle aussi du design. Mais le design, si tu veux, comme il change d'un processeur MIPS à un autre processeur MIPS, par exemple,
on peut pas dire qu'il y a une unicité dans les MIPS là-dessus.
Quoi. Non, voilà, il y a une évolution, autour des mêmes structures, mais ça change tout le temps aussi, tu vois. Donc c'est assez complexe. Tout ce qu'on peut dire, en fait, voilà, c'est qu'il y en a qui sont compatibles entre eux et d'autres pas. Et voilà, quoi, c'est des sortes de grandes familles comme ça qui se parlent pas et qui se haïssent en général.
D'accord, c'est
des générations.
C'est Game of Thrones en fait.
Exactement.
Ok. Excellent. Et ben écoute, pour conclure, je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté de produits qu'on nous avait annoncés, dont on avait entendu parler, avec des noms qui s'assimilent à des titres de films et qui vont sur lesquels on a des petites updates, des petites mises à jour, des petites infos. Je le fais pas bien.
The Machine.
Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est pas mal. The Machine de Hewlett-Packard. Alors voilà, HP a annoncé l'an dernier qu'il travaillait sur une super machine de fou, complètement révolutionnaire, qui allait devenir un petit peu le prototype des super ordinateurs du futur. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vision qu'avait HP était une vision assez marrante, une sorte de changement de paradigme où, au lieu de placer les processeurs, c'est-à-dire les calculateurs au centre, on mettait la mémoire au centre. Et les calculateurs autour, en fait. Donc le but, c'était de faire un énorme pool de données autour des processeurs qui pourraient, travailler sur des portions de données, des processeurs en très très grand nombre, qui pourraient travailler sur des processeurs sur des portions de données, bon comme ça. Un des gros trucs de The Machine, c'était qu'elle allait utiliser un nouveau type de mémoire, qui était une mémoire non volatile. les mêmes restores qui allaient donc permettre non seulement d'utiliser donc des puces de mémoire qui ne s'effacent pas quand on coupe le courant, hein, donc c'est-à-dire comme si c'était des SSD.
E-paper, mais pour la mémoire.
Ouais, c'est des SSD super rapides. Voilà, on peut le voir un petit peu comme ça, et puis surtout directement adressable. Puis le problème de l'adressage aussi quand on a des grosses quantités de données comme ça. Donc c'était l'idée d'avoir une espèce d'énorme quantité de données non volatiles, comme si c'était un disque dur, mais directement adressable par un ensemble de processeurs, et tout ça relié par des liens, des bus extrêmement rapides, des bus photoniques extrêmement rapides. Bon, tout ça était un petit peu science-fiction et tout, c'était une sorte de, voilà, un truc assez ambitieux, faut le dire. Et bon, on a pu lire ici et là que il y avait eu des downgrades, que The Machine était mort. En fait, moi, je le vois pas comme ça. Il y aura apparemment un prototype de The Machine en 2016. Mais alors, c'était une déception pour certains de voir qu'elle a utilisé de la RAM normale, de la DM, de la DRAM.
Mmh.
Et pas du memory store, machin truc. Bon, alors, il faut quand même se rendre compte que les memory stores, c'est pas facile à produire en grande quantité, et que pour l'instant, c'est une technologie qui est pas vraiment mature. Et donc, il est possible que même à terme, c'est-à-dire que même pour les protos de génération supérieure, ils utilisent de la RAM à changement de phase, qui est apparemment plus proche de la production que les memory stores. Bon, cela dit, faut pas non plus exagérer. Hein. The Machine, c'était quand même un but à long terme. Le fait qu'il y avait un gros prototype qui va voir le jour en 2016, c'est pas rien. C'est quand même un prototype qui aura 320 téraoctets de mémoire, qui est quand même assez extraordinaire.
Le truc qui se rend
même pas compte. Et 2500 cœurs de processeur.
Bon, allons-y.
Qui exécute plus de 10 000 threads simultanément. Alors, le fait que ce soit pas les mêmes restores et tout, c'est vrai que c'est dommage, mais enfin, c'est quand même un prototype qui va être assez énorme.
Et ce qui est fou, entre parenthèses, c'est qu'ils ont annoncé un produit qui n'est pas encore en prototype et qui sera en prototype dans un an. C'est quand même...
Ils ont annoncé un produit qui sera peut-être en prototype à la fin de la décennie.
Ouais, mais c'est fou quand même.
Ils ont annoncé un truc de longue haleine, et en 2016, ils vont faire un proto, donc qui sera... C'est un downgrade, évidemment, par rapport à la machine finale à terme, mais on va dire c'est juste une étape en fait. Et donc moi j'ai bon espoir quand même que ce proto permette aux chercheurs, aux programmeurs de se familiariser avec les nouveaux paradigmes, si tu veux, d'avoir comme ça des quantités de données absolument énormes, parce que mine de rien il faut programmer ce genre de truc, hein. Il faut tirer parti de des machines comme ça un petit peu atypiques, et donc c'est pas complètement évident. Et même si c'est pas la version Linux++ qu'on avait dit au début qui sera utilisée, mais une version Linux standard, et même si c'est pour l'instant pas de la RAM non volatile, écoute, le fait qu'il y ait un proto comme ça déjà qui arrive, c'est déjà pas mal. C'est probablement qu'une étape, et puis bon, même s'ils utilisent des memory stores que dans 5-6 ans, moi je demande à voir. Donc The Machine n'est pas morte, hein, même si ça avance doucement, quoi.
Quels usages pour un produit comme ça?
Des usages, alors écoute, pour l'instant...
Est-ce que c'est le produit qui amène des nouveaux usages, ou est-ce que ça...
Eh bien, ils espèrent. En fait, le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement complexes, qui sont déjà en fonction sur d'autres data centers, par exemple Watson, qui est... Watson, je rappelle, c'est l'intelligence artificielle, exactement, ouais. C'est l'intelligence artificielle d'IBM qui est capable de comprendre ce qu'on dit, qui est capable de lire en fait un certain nombre de données moyennement structurées et de comprendre ce qu'elle lit, et voilà, de répondre à un certain nombre de questions. Enfin voilà, c'est une intelligence artificielle assez évoluée. Elle va pas conquérir le monde, et puis elle va pas tomber amoureuse de vous, enfin pas pour le moment, mais disons que le truc c'est quand même pour l'instant un ordinateur cognitif qui est assez évolué et qui utilise justement des quantités de données, qui a accès justement à des quantités de données à chaque seconde absolument faramineuses, quoi, et qui doit gérer tout ça. Donc Watson, ça pourrait par exemple être un excellent candidat pour un truc où il y a la mémoire au centre, enfin une grosse quantité de mémoire au centre.
D'accord.
Mais il y a peut-être d'autres trucs qui vont arriver. Par exemple, à l'heure actuelle, il n'est pas envisageable de contenir dans une mémoire d'ordinateur la totalité des avions en vol à un instant donné.
Flight radar, c'est pas ça, non ?
Il n'y a pas la
l'application
totalité.
L'application Flight Radar.
Il n'y a pas la totalité, totalité. Mais surtout, le truc, c'est que The Machine pourrait avoir, par exemple, ce genre de gros volume de données en RAM directement utilisable, et surtout, ça permettrait d'avoir une vision globale, en fait, du trafic aérien, mais vraiment globale, à l'avion près, en fait, et de prendre des décisions en fonction de ça.
Je suis estomaqué, tu me dis, il n'y a pas, c'est juste bluffant, il n'y a pas aujourd'hui de ressources, ou en tout cas, il n'a pas été possible aujourd'hui d'avoir une liste, enfin, une espèce de maxi base de données, un gros fichier Excel, de l'ensemble des positions en temps réel de tous les avions de la planète. Il y a combien d'avions autour de la planète? Il n'y en a pas des milliards?
Il y en a pas mal, mais surtout, je ne sais pas si c'est partagé, quoi. Si tout est partagé, puis je ne sais pas si tous les plans de vol sont accessibles à tout le monde tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un petit peu plus, Ah, bon, c'est peut-être un mauvais exemple aussi, attention, je dis ça.
Bon, non, mais si tu le dis, c'est que tu as dû entendre ça quelque
part. Le truc, c'est qu'effectivement, le paradigme d'HP, apparemment, ce serait de foutre la donnée au centre. Et surtout s'il y en a beaucoup, quoi, tu vois. Au lieu d'avoir, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a les données, bah, elles sont stockées sur des supports qui sont, des disques durs, des trucs comme ça, qui sont assez longs, en fait. Et donc, on travaille de manière
avec
active.
Les SSD, mais...
Ça s'est amélioré, mais c'est toujours plus lent. Et du coup, si on travaille souvent sur des, morceau par morceau. Plus ou moins gros sur la quantité de RAM, on quand même travaille quand même morceau par morceau. Et The Machine permettrait de travailler globalement sur un volume de données énorme sans avoir à faire du morceau par morceau.
D'accord, intéressant, très intéressant. HP, ils nous font quand même de l'innovation, hein, au sens pur et dur du terme. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, on peut peut-être en retoucher un mot maintenant. Moi, j'ai testé un Sprout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est cette fameuse machine avec une espèce de projection... de l'image sur une espèce de surface, donc en gros il n'y a pas de clavier, mais il y a une espèce de grande surface plane sur laquelle une image est projetée avec une lampe. Vous pouvez aller regarder un Sprout, il est plus connu de par son nom un peu bizarre que par ses capacités. Et il était en démo à la FNAC il y a de ça quelques jours, il y a peut-être toujours d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de tester, et en fait j'ai eu une bonne impression, moi. J'ai testé un peu de dessin dessus, donc il y a la surface qui permet un accueil d'un style qui est fait exprès, qui est super agréable en termes de texture et de rendu. C'est assez proche de ce qu'on pourrait avoir avec un vrai stylo. C'est à mi-chemin entre un stylo et une tablette un peu Wacom, pour ceux qui connaissent. Une super interactivité, enfin une super réactivité, la possibilité de scanner en 3D. Je me suis fait scanner ma main en 3D après un petit reboot de la machine quand même, mais le résultat était assez probant. Et puis, ça paraît bête, mais l'interface qui change sur la surface qui est devant, c'est top. Typiquement, pour utiliser un clavier, c'était plutôt confortable. Et une interrogation qu'on avait quand on avait parlé, c'était la projection des ombres, qui finalement gêne pas tant que ça. Je dois reconnaître que moi, ça m'a pas gêné à l'usage et ça m'a pas bloqué pour écrire des démos sur ce clavier. Un petit bémol quand même, c'est je trouve l'occupation sur un bureau. On a cette grosse lampe là au-dessus qui est quand même assez disgracieuse. Le socle sur lequel on dessine, on peut l'enlever, il est aimanté, ça s'enlève très facilement, on peut le remettre très facilement, mais par contre le reste de la machine, bon, c'est une espèce de gros iMac avec une espèce de lampe au-dessus, un peu comme ces lampes de projecteurs qu'on avait, je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, tu as dû connaître ça dans les salles de classe quand
il y avait
les transports. Les
rétroprojecteurs.
Hein. Voilà, c'était exactement ça. Donc, t'as l'impression d'avoir ça. D'ailleurs, je me demande si ça vieillira bien. Mais voilà. Écoute, en tout cas, un vrai clin d'œil à HP qui cherche à innover. Je pense que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Mais ils ont de la ressource quand même.
Non, mais j'espère, effectivement.
À suivre. Écoute, Guillaume, c'était fort intéressant. J'ai l'impression qu'on a repris des bases et puis qu'on est allé imaginer un peu. Ça me fait flipper, hein, quand même, au passage, les The Machine. Quand je vois ce qui se passe côté DARPA, on avait parlé dans le Tech Café du concours du DARPA Robotic Challenge, où tu vois les robots qui sont de plus en plus capables d'être polyvalents et de faire de plus en plus de choses. Et quand tu couples ça au potentiel que peut avoir The Machine et d'apprentissage et d'interprétation de raisonnement, ça fait quand même un peu un avant-goût de Terminator, tout ça, ça fait flipper.
Écoute, c'est d'autant plus que The Machine, par exemple, c'est le proto qui arrive, là. C'est un proto qui va globalement avoir la taille d'un frigo, quoi, d'un gros frigo. Et c'est pas si gros que ça, en fait. T'imagines si t'arrives à exécuter une instance de Watson là-dessus.
Ouais.
Ça serait quand même assez incroyable, hein, parce que pour l'instant ça exécute sur des trucs énormes, hein, et du coup petit à petit effectivement on arrive à des trucs de plus en plus intelligents, où il y a de plus en plus d'intelligence qui est soit déportée soit intégré et qui est à notre disposition, quoi, hein, des trucs de reconnaissance vocale, de reconnaissance de photo, de reconnaissance donc optique, des et bientôt, à mon avis, le grand truc, ce sera effectivement l'informatique cognitive, quoi. Ouais. On va arriver à peut-être une forme de démocratisation à terme, d'ici une dizaine d'années, hein, des démocratisations de l'informatique cognitive, des ordinateurs qui seront capables de penser en concept.
C'est fort, hein. C'est vraiment bluffant et en même temps c'est flippant. On se rappelle des propos d'Elon Musk qui a tendance à avertir contre les innovations liées à la robotique comme ça. Écoute, ça donnerait presque envie de flipper finalement par rapport à tout ça.
Puis on n'y est quand même pas encore. Hein. Faut pas.
Est-ce que au moment où on dira on y est, il sera pas trop tard, quoi. C'est un peu ça le truc en fait.
Ouais, ben c'est vrai qu'on s'était dit avec les robots là, parce que bon, il y a deux manières de le voir. Hein. Je t'avais dit, c'est quand même super rigolo tous ces robots qui se cassent la gueule. Il y a cette espèce de compilation de robots qui se prennent des gamelles mémorables, et c'est vrai que c'est super marrant.
Bourrés, c'est clair.
Et puis bon, tu te dis, bon, finalement, ok, ils sont super évolués, mais on va failli mettre quoi, 40 minutes à faire un truc que moi je fais en 10 minutes max, quoi. C'est tu vrai. Vois, ils ont l'air handicapés moteurs. Mais tu me disais, c'est très juste, ils sont quand même là. C'est-à-dire, ils existent, et ils sont quand même capables de le faire. Ouais. Et quand on voit la vitesse à laquelle les processeurs et les machines donc, qui nous entourent ont évolué, et si c'est pareil pour les robots, t'imagines dans 10 ans.
Bah, si la loi de Moore qui démontre la
exactement,
le
si y a une loi de Moore pour les robots, je te dis pas quoi.
Ça existe d'ailleurs, non, ta connaissance de ça, de l'équivalent d'une loi de Moore robotique, non?
Non, parce que c'est beaucoup plus non, c'est pas du tout pareil en fait. Le problème de la robotique, c'est que c'est quelque chose de très transversal. Il y a énormément de domaines dans la robotique qui sont utilisés, tu vois. Il y a parce qu'il y a les gens qui font les moteurs, il y a les gens qui font les articulations. Il faut savoir, il y a énormément de choses, exactement. Il y a les capteurs, il y a énormément de composants qui sont très très différents. Donc il y a énormément de choses qui doivent évoluer pour qu'un robot puisse lui-même évoluer, quoi. Et en particulier les CPU, mais c'est juste un truc. Alors que quand tu fais un CPU, finalement, c'est un seul point, tu vois, c'est une seule technique, il y a une seule technologie. Et cette technologie-là, elle évolue, voilà, toute seule.
Il n'y a pas de dépendance d'autres technologies, quoi.
Voilà. Il y a beaucoup de technologies différentes pour la robotique. C'est pour ça que c'est très dur, à mon avis. C'est aussi pour ça qu'à mon avis, ça évolue de manière plus lente et plus anarchique, quoi, pour l'instant.
Mais ce qui explique aussi, et après on digresse un peu beaucoup, mais ce qui explique aussi les initiatives de type concours de robots, qui vise de manière indirecte, sans qu'on s'en rende vraiment compte, à finalement à mutualiser les innovations et les ressources. Pas les mutualiser dans le sens où on les rassemble tous en un seul appareil, mais de les rassembler en une seule et même réflexion et un seul et même événement pour pouvoir comparer, associer et pouvoir tous les rapprocher les uns des autres. Quoi. C'est super malin en fait.
Ah ouais, moi aussi. Et puis bon, ça fait des vidéos rigolotes.
C'est clair. Allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue suite au dernier Tech Café. Guillaume, merci. Les chroniques des composants se suivent, se ressemblent, mais en même temps se ressemblent pas trop, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, j'approfondis un peu ma connaissance de tout ça. Donc merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Faites-nous vos retours, vous qui nous écoutez, pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez, et puis vous avez peut-être des réactions à ce qu'on échange. On dit peut-être des bêtises, tu l'avais déjà dit, hein, Guillaume.
Ah oui, mais de toute façon, j'en dis sans doute, hein, y a pas de problème.
N'hésitez
hein.
pas à les souligner, parce qu'à la limite, une bêtise en soi, c'est pas vraiment une catastrophe, mais une bêtise corrigée, c'est de l'intelligence qu'on partage tous, donc ça fait très plaisir et des connaissances en plus. Merci beaucoup Guillaume, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Café et un nouvel épisode de la chronique des composants. Ciao ciao.
Gros bisous.